Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
On va parler de la plus belle histoire d'amour. La plus belle histoire d'amour. Vous en avez peut-être tous rêvé, de la plus belle histoire d'amour. On va faire une lecture ensemble dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6 et au verset 5, et je vous fais la lecture dans la traduction Parole vivante. Nous sommes devenus un seul et même être avec lui. Nous lui avons été incorporés comme le greffon à son porte-greffe. Si donc nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui, nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre comme lui. Dans le livre du Cantique des Cantiques, au chapitre 6 et au verset 3, il est dit « Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, au parterre des aromates, pour paître dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il paît parmi les lys. Amen. » Il y a 15 jours, le message que j'avais prêché, puisque la semaine dernière on avait la joie d'accueillir les rescapés au milieu de nous, j'avais prêché sur la transcendance du mariage. Le message expliquait quelle était la vision de Dieu ou quelle est la vision de Dieu sur le mariage. À ce propos, je disais qu'il n'existe aucune relation entre deux êtres humains aussi intimes, aussi belles, aussi importante, parce que cette union doit refléter l'amour qui existe de toute éternité au sein de la Trinité. Le mariage donc doit être le terrain sur lequel l'amour et la transparence grandissent de façon absolue, où chacun doit donner et recevoir de l'autre sans compter, au point de mourir à lui-même pour l'autre, comme Christ l'a fait pour l'Église. Vous pourrez écouter, si vous le voulez, ce message sur notre site internet. Il a été mis en ligne. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Charles et Fabien qui travaillent à l'enregistrement, les frères à la sono aussi, pour la mise en ligne des messages. Merci pour leur réactivité. Je les pousse souvent, mais parce qu'on nous demande quand est-ce qu'ils sont mis en ligne, etc. Donc on les remercie vraiment pour leur travail. Dans la continuité de ce message, j'aimerais aujourd'hui vous parler de la plus belle histoire d'amour qui ait jamais existé au sein de notre humanité. Celle qui raconte l'amour entre Christ et chacun des croyants. C'est l'histoire d'un amour passionné, d'un amour sacrificiel et éternel, qu'un livre de la Bible illustre parfaitement. C'est pourquoi, dans un premier temps, j'aimerais vous entraîner dans les parvis d'un théâtre antique où se jouait une pièce dramatique. Si vous avez jamais vu un théâtre antique, allez du côté de Arles et vous verrez le théâtre antique de Arles. C'est juste magnifique à regarder, ses ruines, ses vestiges. Il est en super état. Ce matin, j'aimerais vous entraîner dans un théâtre antique où se jouait une pièce dramatique. Car plus qu'un poème lyrique ou un texte allégorique, le Cantique des Cantiques, appelé en hébreu le plus beau des chants, est un drame à trois personnages. Il y a la Sulamite, une jeune paysanne israélite. Selon les commentateurs, on lui donne à peu près 12 ans. Un jeune berger dont elle est follement éprise et le roi Salomon en personne. Il est question au travers du Cantique des Cantiques d'une pièce dramatique. Beaucoup ont lu ce livre en n'y voyant qu'un recueil de chants sensuels et profanes que certains chrétiens auraient aimé même écarter du canon biblique. D'autres n'y ont vu qu'une allégorie spirituelle représentant Christ et son Église. Mais en réalité, le synopsis de cette pièce de théâtre dramatique nous est clairement expliqué par la Sulamite elle-même au chapitre 6, au verset 11 et au verset 12, où il est dit j'étais descendu au jardin des noyers pour voir les jeunes pousses du ravin, pour voir si la vigne bourgeonnait, si les grenadiers fleurissaient. Je ne sais pas comment mon âme ou mon désir m'a poussé vers les chars des princes de mon peuple. Dans ce cantique des cantiques, il y a cette Sulamite, cette jeune fille, qui a le désir et le souhait d'aller dans le jardin. On en est sortis tous du jardin. Il y a quelques milliers d'années, nous en avons été chassés. Et elle est descendue au jardin. Il y a évidemment quelque chose qui nous ramène au texte de la Genèse, à la notion de l'Éden. Et elle descend dans le jardin pour voir l'état du jardin, pour voir les jeunes pousses, la vigne, les grenadiers. Seulement, son âme l'a poussée vers les chars des princes de son peuple. Autrement dit, imprudente, voilà que mon caprice m'a jeté parmi les chars d'un cortège princier. En réalité, alors qu'elle était dans le jardin, un cortège princier va passer et elle va être attirée vers ce cortège princier alors qu'elle était dans un magnifique jardin. Et ce verset constitue la clé de cette pièce dramatique. Poussée par la curiosité, une jeune adolescente qui était descendue dans son verger se retrouva face à un cortège royal qui passait par là. Cela aurait pu être le commencement d'un magnifique conte de fées. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, la réalité n'a rien d'un conte pour enfants ou d'une comédie romantique. Ce que beaucoup de chrétiens ont pris pour une jolie balade sensuelle et bucolique était en réalité une tragédie sentimentale. Un drame d'une violence et d'une combativité remarquables. Vous savez ce que veut dire Sulamite ? Ça veut dire la parfaite ou encore la paisible. La Sulamite, dont le nom signifie la parfaite ou la paisible, a-t-elle était remarquée pour sa beauté par les serviteurs du roi, par les princes ou par le roi lui-même? Il est donc question de Salomon qui passait en cortège à côté du jardin où se trouvait cette Sulamite. Que s'est-il passé? A-t-elle été remarquée pour sa beauté par les serviteurs du roi? On ne le sait pas. Mais le fait est que cette jolie paysanne s'est soudain retrouvée sur l'un des chariots de l'escorte royale, au milieu des femmes du harem. Et vous savez que Salomon, des femmes, il en avait pas mal. Et ces femmes du harem étaient appelées euphémiquement dans ce livre, c'est-à-dire pour ne pas choquer, les filles de Jérusalem. Imaginez la scène. Salomon passe avec ses chars, le cortège royal, les femmes du harem sont là, présentes. Et cette Sulamite est dans son jardin et à un moment donné, elle se retrouve entraînée dans le cortège. Elle est là maintenant au milieu des filles du harem. Replacez-la, s'il le faut, dans notre contexte actuel, pour en comprendre toute la tragédie. Et la suite de ce livre a lieu dans le palais royal, à l'intérieur du palais de Salomon. Et c'est un échange passionné de dialogue avec la Sulamite qui est au centre de la scène. D'un côté, il y a les filles de Jérusalem, les filles du harem, les femmes du harem, qui chantent le bonheur d'être aimées par le roi. Vous savez, Salomon, c'était pas n'importe qui. On venait de très loin pour le voir. La reine de Saba est venue de très loin, de l'Afrique, pour voir Salomon. Il n'y avait pas un homme qui ait autant de sagesse. Il vivait dans une opulence financière. Son palais était magnifique. C'était un homme dont il était bien de le suivre, de lui parler, de le questionner, de vivre en sa présence. D'un côté, il y a les filles de Jérusalem qui chantent le bonheur d'être aimées par le roi. Et de l'autre côté, il y a le roi qui essaie par toutes sortes d'éloges et de promesses de gagner le cœur de cette jeune adolescente pour en faire une de ses concubines. À ce stade, cette histoire ressemble plutôt à une tragédie. Plutôt qu'à la plus belle des histoires d'amour que je vous avais promise au début du message. Voilà notre jeune bergère embarquée dans le harem du roi. Mais le nœud de ce message se joue dans le cœur de la Sulamite. C'est elle le personnage principal de cette histoire. C'est elle qui détient la clé et le dénouement de ce drame. C'est dans son cœur que nous devons puiser tout l'amour qui doit nous servir d'exemple et nous animer, chacun de nous, chacune de nous. Dans l'abondance de son cœur, sa bouche parle autant aux filles de Jérusalem qu'au roi. Et c'est en examinant attentivement ses propos que nous pouvons y découvrir un amour exceptionnel, un amour passionné, un amour inébranlable. Parce que la Sulamite avait quelqu'un déjà dans sa vie, un bien-aimé. Lorsque la Sulamite parle de son bien-aimé, ce n'est absolument pas pour vanter les atours de Salomon, comme beaucoup l'ont pensé. Quand la Sulamite parle de son bien-aimé, ce n'est pas de Salomon dont elle parle. Salomon ne correspond en rien aux descriptions faites par la jeune fille. Salomon n'a jamais été le berger qu'elle décrit avec tant de passion. Salomon, s'il faut le rappeler, était le plus puissant, le plus riche et le plus cultivé de tous les rois de l'Antiquité. Personne ne l'avait jamais égalé et les puissants de son époque se déplaçaient d'un bout du monde pour le voir, le rencontrer et contempler la splendeur de son royaume. Et c'est face à ce roi que se retrouve la petite paysanne, sans fortune et sans instruction. C'est à lui qu'elle résiste, de toutes ses forces, tout en vantant les attraits du jeune berger dont elle est éperdument amoureuse. Et c'est de ce paradoxe immense que doit naître notre admiration ce matin. Parce que le Cantique des Cantiques n'est pas un poème mièvre pour jeune fille romantique. C'est l'histoire d'une lutte acharnée et incommensurable entre la tentation de céder aux tentations de ce monde pécheur et le désir de rester fidèle au berger absent sur la scène et pourtant tellement présent dans le cœur et dans la bouche de cette jeune paysanne. L'action dramatique de la plus belle histoire d'amour progresse par degrés au fil de la pièce, puisqu'il est question en réalité d'une pièce de théâtre, à travers le Cantique des Cantiques, au travers des chapitres de ce livre. Avec des tentations de plus en plus fortes, des déclarations d'amour faciles, des offres de bijoux, des démonstrations de l'apparat royal accompagné de la promesse d'occuper le rang suprême. Jusqu'au moment où le roi, sûr de sa victoire, se fait rapidement remballer. Salomon va se prendre, comme on dit aujourd'hui, un râteau. Il va se faire remettre en place. Il est dit dans le livre du Cantique des Cantiques au chapitre 7 et au verset 10, « Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. » Autrement dit, rien ne me séparera de l'amour de mon bien-aimé, puisque je lui appartiens et qu'il m'aime. Passage qui est sans nous rappeler, qui n'est pas sans nous rappeler, pardon, les propos de l'apôtre Paul, lorsqu'il dira dans Romains chapitre 8, versets 35 à 39, « Qui nous séparera de l'amour de notre bien-aimé, de Christ, de notre berger ? » Sera-ce la tribulation ? ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aviez-vous déjà considéré avec quel aplomb la Sulamite a résisté au roi Salomon? Elle est devant le roi d'Israël, celui qui a pouvoir de vie et de mort sur tous ses sujets dans le pays. C'est une jeune fille, une jeune bergère, une paysanne. Elle est en train de résister au roi qui l'a embarquée dans son harem, qui vient vers elle pour essayer de la connaître. Elle lui dit, mais moi je ne t'appartiens pas, j'appartiens à mon bien-aimé. Tu peux me présenter ton royaume, tu peux me présenter tes beaux habits, ton beau discours, ton beau langage. J'ai un bien-aimé et je lui appartiens. Regardez l'aplomb de cette jeune fille. Aviez-vous perçu toute la passion qui l'animait alors qu'elle vantait les atours de son jeune berger à la barbe du roi ? Et en réaction à toutes les pressions de son entourage, et en considérant cette histoire dans son ensemble, vous relirez ce livre avec une nouvelle perspective, certainement beaucoup plus christocentrique, et conforme au message général des Écritures. Vous la verrez réellement comme une lutte de la Sulamite contre les attraits du monde, et elle deviendra pour vous une parabole pleine d'enseignements. Parce que le Cantique des Cantiques, c'est une parabole christocentrique. L'histoire de cette petite paysanne, si courageuse, égarée dans les fastes d'un palais royal majestueux, c'est aussi une parabole qui nous concerne, qui est faite pour nous interpeller à nous aujourd'hui. Salomon ne représente en aucun cas notre roi des rois, celui qui est saint et glorieux. Il personnifie plutôt tous les attraits terrestres qui pourraient nous attirer loin de notre Dieu, tels que la richesse, le matérialisme, l'amour du pouvoir, la recherche de l'ascension sociale et du prestige. Bref, tout ce que l'apôtre Jean décrit dans sa première épître au chapitre 2 et au verset 16, lorsqu'il dit que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde. Aussi les filles de Jérusalem, les femmes du harem, par opposition à la Sulamite, se sont d'ores et déjà laissées fasciner par l'éclat de Salomon. Elles jouent ici le rôle des cœurs dans la tragédie antique, c'est-à-dire qu'elles poussent la jeune paysanne dans ses retranchements, pour qu'elle nous dévoile son cœur. Et en même temps, elle reflète les sentiments des croyants les plus charnels, qui se laissent séduire par la convoitise de leur chair, de leurs yeux, par l'orgueil de la vie. Celles qu'on a appelées par pudeur les filles de Jérusalem étaient plutôt des concubines emprisonnées dans une cage dorée, dans un harem. Elles ont vanté les qualités du roi. Mais avaient-elles réellement de quoi se vanter? Et il faut toute la lucidité et le discernement d'un cœur renouvelé pour comprendre que toutes ces convoitises sont autant de pièges et d'appâts empoisonnés. Tous les désirs charnels de notre nature pécheresse, comme les désirs sexuels illicites ou la recherche effrénée du confort, du plaisir et de la bonne chair, toute la cupidité et les désirs de s'approprier ce qui est à autrui, tout l'orgueil de la vie sont autant de chaînes qui avaient lié ces filles de Jérusalem et qui peuvent évidemment nous piéger. Tirer gloire de ce que nous avons accompli. Rechercher la célébrité ou une position sociale en vue. Placer notre confiance en nous-mêmes au lieu de la placer en Dieu ne sont que des péchés qui nous cachent réellement la face de notre roi des rois. Et par opposition à toutes ces concubines, la Sulamite représente la fiancée pure et fidèle, attendant son époux, sans faiblir dans son amour passionné. Elle représente le croyant né de nouveau et profondément attaché à son divin berger. Elle illustre la fidélité du croyant qui, dans son union à Christ, résiste envers et contre tout, aux tentations, se focalise sur celui qu'il aime avec passion, une passion indéfectible qui l'amène à persévérer avec courage dans l'épreuve et à ne regarder qu'à Christ et à lui seul. Cet amour-là ne regarde pas à ce qui attire les regards. Il se concentre sur l'invisible, sur le bon berger. Celui décrit par le prophète Ésaïe au chapitre 53 et au verset 2. Comme celui qui s'est élevé comme une faible plante. Il est comme celui qui s'est élevé comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et dont l'aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus n'est pas venu dans des habits de roi. Il est venu comme le Messie souffrant. Il reviendra comme le Messie glorieux. Mais la première fois, il est venu comme le Messie souffrant. Les Juifs attendent deux Messies, le Ben Joseph et le Ben David. Un Messie souffrant et un Messie glorieux. Ils n'ont juste pas compris que Jésus était ce Messie souffrant et ce Messie glorieux. Tout le drame de cette histoire est dominé par un personnage qui ne se montre jamais, mais qui transparaît avec une force phénoménale dans chaque parole de celle qui l'aime. En réalité, on ne le voit jamais. Dans le théâtre, on ne le voit pas, ce berger. Il est invisible. Mais dans les discussions de cette jeune fille, nous en est fait toute la description. Elle ne tarit pas de mots pour le décrire. Tellement elle l'aime. Pour elle, Salomon, dans toute sa gloire, avec son trône magnifique, son palais, avec toute sa fortune, avec ses écuries immenses, avec ses hommes de troupe, ses serviteurs et ses servantes, n'ont rien de commun avec son berger. Rien. Cela pourrait sembler pourtant une folie de la part de Sulamite, de comparer un berger invisible à la magnificence de Salomon. Et ça l'était d'ailleurs aux filles de Jérusalem, car comme l'a dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 14 et 15, l'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ses dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie. Et il est incapable de les comprendre. Pourquoi ? Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. Et c'est à la lumière de cet Esprit qu'elle demande à être jugée. Voilà le secret de la Sulamite. Voilà pourquoi elle ne laissa pas les jugements, les propos enjôleurs, atteindre ses pensées. Fille de Jérusalem, pensez ce que vous voulez. Jugez-moi si vous le voulez. Prenez-moi pour une folle de refuser d'appartenir au monde, d'appartenir à Salomon, avec tout ce qu'il m'offre, avec toutes les facilités que cela pourrait représenter, toute la considération que cela pourrait me donner. Jugez-moi comme une folle. Qu'est-ce que ça peut nous faire, dit le cantique qu'on nous montre du doigt et qu'on dise, ils sont fous, ces chrétiens. Voilà pourquoi elle ne laissa pas les jugements, les propos enjôleurs atteindre ses pensées. Voilà pourquoi elle resta concentrée sur son bien-aimé alors que les propos inquisiteurs tentaient constamment de la séduire et de ravir son cœur. Voilà pourquoi elle tenait ferme contre le tourbillon passionné des paroles enjôleuses qui essayaient de la faire fléchir, tout comme Satan a réussi à faire fléchir Adam et Ève en Éden. Gardons-nous, nous aussi, les yeux fixés sur notre bien-aimé, à l'heure de la tentation. Fermons-nous nos oreilles aux propos séducteurs qui voudraient pénétrer notre cœur et souiller nos pensées. Sommes-nous assez résolus pour combattre le bon combat de la foi et proclamer comme la Sulamite dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 7 et au verset 10 : Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Regardez, c'est pas elle qui a des désirs pour lui, c'est lui qui a des désirs pour elle. Elle est son élue, il l'a choisie depuis bien longtemps. Quelle grâce! C'est pas nous qui l'avons aimé le premier, c'est lui qui nous a aimé le premier. Je suis à mon bien-aimé, je suis à Christ. Il m'a choisi, il m'a aimé, lui, le premier. Nous souvenons-nous que notre Père est plus grand que tous et que personne ne peut nous ravir de sa main? Quelle sorte d'amour nous unit à notre bien-aimé berger? Et si on questionne cet amour-là, s'est-il attiédi ou est-il toujours aussi passionné? Si l'élu de Dieu, sa bien-aimée, sa fiancée reste fidèle à son divin berger, elle le verra paraître à la fin de l'histoire et elle montera du désert de ce monde appuyée sur son bras pour goûter les joies d'un amour éternel. Il est dit au chapitre 8, versets 5 et 6, toujours du Cantique des Cantiques, « Qui est donc celle qui monte du désert ?» En s'appuyant sur son bien-aimé. « Place-moi comme un sceau sur ton cœur, sur ton bras !» L'amour est fort comme la mort, et la passion est indomptable comme le séjour des morts. Les flammes de l'amour sont des flammes de feu, oui, des flammes sacrées venant de l'Éternel. Bien-aimé du Seigneur, quelle voix écouteras-tu? Celle du berger qui t'aime et qui t'invite à une vie cachée avec lui? Loin du faste et de la gloire mondaine? Ou celle du roi de ce monde qui par l'apparat extérieur t'entraîne dans les richesses de ce monde et la fausse gloire visible? À qui t'attacheras-tu? Au bras de qui vas-tu te retrouver? Il est véritablement question de la plus belle histoire qui n'ait jamais été contée. Plus qu'une pièce de théâtre antique, fût-elle tirée d'une histoire vraie, ce drame rapporté dans la Bible est une parabole qui doit nous questionner au sujet de notre amour envers le Christ, envers Jésus. Si dans cette belle histoire d'amour passionné entre une petite paysanne et un berger, une adolescente est capable de proclamer un amour indéfectible et passionné, divin et éternel pour son bien-aimé terrestre, combien à plus forte raison devrions-nous déclarer un tel amour à notre roi céleste? Notre vie devrait alors refléter cet amour puissant. Elle devrait témoigner par nos motivations, par nos attitudes et nos actes combien notre affection pour le Christ nous garde des pièges du monde et de notre ennemi. Son amour est fort comme la mort. Fort comme la mort. Par amour pour nous, il est mort sur la croix. Releverons-nous le défi de l'aimer au point de mourir à notre vieille nature charnelle et de lui rester fidèle jusqu'au bout dans un amour passionné et exclusif tel la Sulamite? Je te resterai fidèle jusqu'au bout. Mon bien-aimé, tu es mort pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Aucune des fortunes de ce monde, rien dans ce monde, aucune tentation ne me ravira à ton amour. Rien. ton amour est au-delà de tout ce qu'on peut penser, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, au-delà de tout ce que l'on peut espérer. Au-delà de tout. Car comme nous en avions parlé il y a 15 jours, en expliquant le texte d'Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 33, la Bible décrit parfois l'Église comme l'épouse du Christ ou comme les membres de son corps. Et plus que l'union de deux êtres qui s'aiment et se marient, notre union à Christ est aussi comparée à l'union entre un corps et une tête. Dans son épître aux Colossiens, Paul dira au chapitre 1er, au verset 18, « Il est la tête du corps de l'Église. Peut-on dissocier un corps de sa tête sans qu'il perde la vie ?» Dans d'autres passages bibliques, notre union à Christ est comparée au cep et à ses sarments. Dans Jean 15, il est dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6 et au verset 5, nous lisons « Nous sommes une même plante avec Christ ». Ce qui a été traduit dans nos Bibles en français par « une même plante » est un terme grec qui se dit « sumphutos ». Qui signifie bien plus que cela en réalité. Ce mot veut dire que nous avons une origine commune, une même parenté, et que nous sommes nés ensemble et unis ensemble, comme greffés l'un à l'autre. Les mots choisis par l'apôtre Paul sont forts. Ils nous révèlent que non seulement nous sommes nés de Dieu avec Christ, et grâce à lui, mais nous ne faisons que un avec lui. Qu'est-ce qui naît ensemble, qui est deux et ne font qu'un? Des siamois. Voilà la véritable image de sumphutos. Comme des frères siamois qui partagent la même parenté, la même vie et donc la même mort. Ils ressentent tout pareil. Ils vivent tout pareil. Ils sont unis l'un à l'autre. On ne peut les séparer. Ils ont un seul cœur. Ils vivent unis, totalement unis. L'analogie est-elle assez forte pour qu'on en tienne compte ? Parce que parfois, on fait vite à reprendre notre vie et oublier à qui nous sommes unis. Tu devrais te poser la question, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans ce que tu regardes, là où tu vas, dans tes comportements et dans tes attitudes, te rends-tu compte que ton frère siamois est toujours collé à toi, si tu es né de nouveau, qu'il est toujours là? Toujours présent, uni à toi. Si on avait cette pensée constante et permanente, on se dirait, évidemment, ça peut poser problème. Là où je suis, ce que je fais, ce que je regarde, mes attitudes et mes comportements. Et dans le même ordre d'idée, nous verrons aussi dans quelques semaines que nous sommes aussi avec lui le temple de Dieu. Lui est la pierre angulaire sur laquelle nous sommes bâtis. Entre le déjà et le pas encore, nous pouvons affirmer que ceux qui sont unis à Christ le sont déjà depuis toute l'éternité, avant même la création du monde. Mais nous avons expérimenté cette union lors de notre nouvelle naissance par le moyen de la foi, dira Paul dans Galates 2.20 ou dans Éphésiens 3.16 à 17, et du Saint-Esprit, comme il le soulignera dans Romains 8. Que nous procure cette union incomparable et divine? Nous sommes régénérés, nés de nouveau en Christ. Nous devenons vivants des morts que nous étions. Autrement dit, c'est en étant unis à Christ que nous ressuscitons en recevant la vie qui lui appartient. Nous sommes morts au péché avec Christ. Nous partageons sa victoire sur le péché, sur la mort et sur Satan. Nous avons le pouvoir de persévérer jusqu'à la fin de notre vie. Nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire mis à part pour Dieu, purifiés et consacrés. Nous sommes justifiés. C'est-à-dire que l'obéissance parfaite de Christ à Dieu, chose que nous n'avons pas, est portée à notre compte. Comme si c'était nous qui avions suivi parfaitement tous les commandements de Dieu. Parce que nous sommes unis à lui, nous recevons tout ce qui est de lui. Sa justification, sa sainteté, sa gloire. Le temps que je reste uni à Christ, ces choses sont sur ma vie. Et rien ne me séparera de cela. Rien. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. En Christ, nous serons glorifiés comme lui a été glorifié par Dieu, en recevant un corps glorieux et indestructible. En résumé, s'il y a bien des choses à retenir de cette pièce de théâtre antique, qui est le cantique des cantiques, c'est autre chose que les Marseillais à Cancun ou je sais pas où. Ah bah à la télé, les jeunes aussi connaissent ça. C'est autre chose que ce genre d'histoire faite par des gens qui ne voient pas souvent plus loin que le bout de leur nez. Cette pièce de théâtre antique est là pour nous interpeller. Autrement appelé le plus beau des chants ou la plus belle des histoires d'amour, c'est que tout ce que nous sommes et que tout ce que nous avons vient de Christ, notre bon berger, qui a donné sa vie par amour pour nous. En comprenant la grâce infinie qu'il nous a offerte, nous ne parvenons pas à faire autrement que la Sulamite. Nous ne pouvons cesser de proclamer nos louanges et d'affirmer notre fidélité à celui qui mérite toute notre adoration passionnée. Notre amour le plus complet, et le terme passionné signifie étymologiquement parlant, souffrance. C'est-à-dire que nous sommes prêts même à souffrir pour lui comme il a souffert pour nous, tellement nous l'aimons. Et oui, aimer, c'est souffrir. Si vous vous mariez pour ne plus souffrir, vous allez vite tomber de haut. Aimer, c'est souffrir. Et c'est en souffrant qu'on prouve l'intensité du sentiment qui nous anime, la fidélité de notre cœur. Ravi Zacharias a écrit, fondamentalement, « Adorer Dieu, c'est lui donner de ce que nous avons de meilleur. Cela ne peut pas se faire sans le sacrifice de l'estime et de l'adulation du monde. » Arrêtons-nous un instant, dit-il, et réfléchissons au sacrilège que nous commettons chaque jour. Quelles sont les questions qu'il nous amène à nous poser? Lui donnons-nous tous les jours le meilleur de notre temps? Ou est-ce que le meilleur de notre temps est considéré à tellement de choses? Lui donnons-nous le meilleur de nos forces? Où vient-on à lui lorsque nous sommes totalement épuisés, fatigués et harassés par les charges qui pèsent sur nos épaules au quotidien? Lui donnons-nous le meilleur de nos pensées? Où venons-nous à lui, tellement chargés dans nos pensées que nous les déversons comme un camion ben à l'incinérateur? Lui donnons-nous le meilleur de nos biens matériels? Lui donnons-nous le meilleur de nos ambitions et de nos projets? Ou bien est-ce au monde que nous réservons ce que nous avons de meilleur? Et à Dieu, les restes. Oui, il percute un peu Ravi Zacharia sur ses questionnements. Mais je trouve qu'il est bon de se les poser. S'il y a cet amour dans notre cœur, pour notre bien-aimé, nous devons faire des choix de vie importants et ne plus lui donner les restes de nos vies. De ne plus nous contenter de venir à lui parce que nous ne sommes pas bien. De nous contenter de venir à lui parce que nous avons tellement de soucis, tellement de problèmes. Je pense que si on venait à lui quand tout va bien, on éviterait beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Oui, l'amour, dit le cantique des cantiques, est fort comme la mort. Et la passion est indomptable comme le séjour des défunts. Les flammes de l'amour sont des flammes de feu. Oui, des flammes sacrées venant de l'Éternel. Même de grosses eaux n'éteindront pas l'amour, et des fleuves puissants ne sauraient le noyer. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que mépris. C'est ce que Salomon a essayé de faire. Regarde, regarde mes fortunes, regarde mon argent. Hé, Sulamite, réagis, réfléchis bien. Regarde tout ce que je t'offre en échange de cet amour que tu as pour ce bon berger. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que mépris. Le monde doit être méprisable à tes yeux. Je regarde le monde comme de la boue, dit Paul. Il n'y a rien qui m'intéresse, il n'y a rien qui m'attire. La seule chose qui m'attire en cette vie, c'est Christ. La seule chose, la seule personne, le seul être. L'amour qui doit nous unir à Dieu est d'une intensité et d'une force sans commune mesure et d'une puissance divine. L'amour est plein de beauté. Il est une source de vie quand il est entretenu avec soin. Il faut l'entretenir, l'amour, si on veut qu'il dure. C'est comme un feu. Et faute de bois, le feu s'éteint. Alors il faut alimenter constamment ce foyer. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle un couple, un foyer. C'est là où brûle un feu, mais un feu qui est contenu, localisé. Le feu dans le foyer réchauffe toute la maison. Mais si le feu sort du foyer, il brûle toute la maison. Dieu nous permet d'avoir des feux contenus, pas des feux qui embrassent tout, des passions dévorantes. L'amour doit être entretenu avec soin. Mais comme le soulignent ces versets, il peut être donc dangereux, comme des flammes de feu, ou devenir destructeur lorsqu'il est négligé. L'amour est une soif profonde, un besoin fondamental, une nécessité humaine qui consiste à connaître et à être connu. C'est ça l'amour. Connaître l'autre et être connu par lui. En réalité, c'est cela l'amour. Et nous avons autant besoin de connaître que d'être connu. L'amour est l'expérience la plus perméable et la plus mystérieuse qui soit. Car la Bible la révèle comme étant le don de Dieu. Et évidemment, le don de Dieu est par définition mystérieux. Le Cantique des Cantiques est un livre qui a été écrit pour nous replacer au centre des priorités. Et donc au centre de nos besoins. Aimer et être aimé est une nécessité humaine qui dépasse de loin toutes les relations que nous pouvons partager ou entretenir entre créatures semblables et d'un même monde. Il est un amour qui est plus fort que tout et plus épanouissant que tout. Un amour intarissable et incommensurable. Un amour entre le Créateur et sa créature. L'amour de notre bon berger, de notre nouvel Adam, nous conduira dans une union éternelle, au cœur d'un nouvel Éden, où le péché n'aura plus de place et où l'amour ne pourra plus être altéré. Et en attendant ce glorieux jour, comme la Sulamite, puissions-nous dire « Je chercherai celui que mon cœur aime. » Et dans tout le Cantique des Cantiques, il y a cet échange, cette recherche. Le bien-aimé l'appelle. Où es-tu? Où es-tu? Et elle, où es-tu, mon bien-aimé? Il se cherche. C'est un vrai jeu d'amour. Un jeu de cache-cache. Il se cherche. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je ne m'arrêterai pas à le chercher jusqu'à ce que je le trouve. Il revient, roi de gloire, et nous l'acclamons. Il reviendra pour s'unir à son épouse à l'église, pour ne former plus qu'un avec elle. Mais en attendant, nous sommes exhortés, encouragés par cet amour qui est en nous, que lui a mis en nous, à le chercher, à le rechercher sans cesse. Que Dieu soit béni. Que notre cœur soit comme le cœur de cette jeune fille. Il y a plein de choses qui pourraient nous attirer en dehors du Christ. Plein de choses sont là pour nous détourner de lui. Plein de choses sont là pour nous ravir le prix de notre course. Puissions-nous savoir qui est celui que nous aimons et qui est plutôt celui qui nous aime vraiment. Celui qui ne veut pas acheter notre amour. Il n'a pas besoin de l'acheter. Puissions-nous avoir nos regards sur lui. Puissions-nous en parler comme la Sulamite parle de lui. Avec tellement d'amour dans nos cœurs qu'on suscitera la jalousie de bien des personnes. Une sainte jalousie. Lorsque j'étais pas chrétien et lorsque je voyais les chrétiens, j'étais jaloux d'eux. Je me disais, ils ont quelque chose que moi j'ai pas. Ils sont en contact avec quelqu'un que je ne connais pas. Et cela a l'air tellement de leur faire du bien dans leur vie, de les remplir, que j'aimerais le rencontrer. Vraiment. Alors je l'ai cherché. Et je ne l'ai pas trouvé. Alors j'ai continué à le chercher, sans le trouver. Je venais aux réunions. Je priais. J'écoutais les pasteurs, je lisais la Bible. Et puis un jour, tandis que je le cherchais, lui m'a trouvé. Il est venu se révéler à ma vie. Et tout a changé. Tout a changé. Ma vision du monde, ma vision des autres, ma vision de moi-même. Lorsqu'il se révèle dans un cœur et dans une vie, ce bon berger, on sait qu'on a enfin trouvé notre place. La meilleure des places. Dans la plus belle des histoires jamais contées. et que, unis à lui comme des frères siamois, nous vivons grâce à lui, par lui. Où il est, je suis. Où je suis, il est. Unis à lui, ne faisant qu'un dans une relation d'amour qui comble tellement nos vies. Porte avec moi le joug de l'Évangile, dira-t-il. Mon fardeau est doux et léger. Que le Seigneur nous entraîne à sa suite et qu'il nous amène dans son palais qu'il a préparé.